Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'épître de Saint Jacques au chapitre 3 verset 16 jusqu'au chapitre 4 verset 3. En voici la lecture. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par suite elle est paix, tolérance, compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits. Sans partialité et sans hypocrisie, c'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitise, et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux, et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit, et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Donc, comme je l'ai déjà dit dans un précédent commentaire de l'épître de Saint Jacques, c'est une épître assez particulière qui a posé beaucoup de problèmes à Luther d'ailleurs. Et elle est particulière parce qu'elle a une double rédaction en quelque sorte. C'est une épître très primitive dans l'Église chrétienne où on voit encore beaucoup les judéo-chrétiens, les juifs qui se tournent au christianisme, être encore attachés à tout ce qui fait leur judaïté. Et puis, elle a quand même été écrite, il y a quand même des passages qui ont été écrits plus tard, puisqu'il y a parfois une contestation de ce que pouvait dire Saint Paul, enfin, contestation apparente. Et ici, donc, ne soyons pas étonnés dans l'épître de Saint-Jacques de trouver très peu de références explicites à Jésus. Il y en a dans le chapitre 2, mais très peu. Mais Jésus est en filigrane. Alors, je vous propose d'aborder ce texte ligne par ligne. Mais d'abord, je voudrais insister sur ce petit passage, sur l'idée principale, qui est que le chrétien est celui qui a compris que les victoires se déroulent d'abord dans l'invisible du cœur. C'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur que procède l'action de Dieu. Donc, ce n'est pas la force, etc., qui fait, mais c'est plutôt un travail sur nous-mêmes et sur nos frères de l'intérieur qui peut effectivement les changer durablement et nous changer durablement. C'est pareil, c'est de l'intérieur de la société que nous pouvons la changer. C'est cette espèce de levain dans la pâte qui va faire lever la pâte. Alors, abordons le texte maintenant plus en détail. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Vous voyez, le mal se manifeste d'abord dans le cœur. Un chrétien doit avoir une vie intérieure très différente de ce qu'est un non-chrétien. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous ne sommes pas encore chrétiens. Alors, nous avons toujours, bien sûr, ces rivalités dans le cœur, ces jalousies. Mais disons aussi, ce qui prévaut, c'est la jalousie, la rivalité, la colère, alors il y a un gros problème qu'il faut travailler dans la prière. Mais donc, disons, la plupart des gens, ceux qui ne se tournent pas vers Dieu, par la prière, qui est le moyen efficace de travailler dans le monde invisible du cœur et du ciel, eh bien, ont une vie intérieure qui est pourrie par le mal. Hein, comme une pomme qui est pourrie de l'intérieur, comme un fruit, si vous voulez. Jalousie et rivalité. Notons que ce qui fait que de l'intérieur ça va mal, c'est l'égoïsme. Parce que finalement, depuis que le péché est entré dans ce monde, c'est devenu comme une seconde nature, mais l'homme est par nature égoïste. C'est d'abord lui. Et donc, comme lui, d'abord, c'est ce qui conduit sa vie, d'abord intérieurement, il y a jalousie et rivalité. Et qui débouche, bien sûr, sur des choses extérieures qui sont les actions malfaisantes. Donc voilà, Jacques nous montre, sous l'inspiration de l'Esprit, que c'est à l'intérieur que commencent les choses, et que l'extérieur n'est que le reflet de la vie intérieure, et que cette vie intérieure, quand elle est soumise au péché, elle est forcément dirigée par l'égoïsme, qui se traduisent par des sentiments aussi destructeurs que la jalousie et les rivalités. Parce que finalement, quand vous regardez la Trinité, le Père et le Fils, il n'y a que don et amour, et il n'y a que réciprocité, il n'y a aucune rivalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas, c'est pour ça que les musulmans et d'autres personnes me font rire, on ne peut pas dire, ah oui, mais Jésus, s'il se dit Dieu, eh bien il enlève de la gloire au Père. Mais il n'y a pas de tout ça en Dieu. S'il y avait ça, il y aurait des rivalités, il y aura en Dieu le péché, et il y aura en Dieu l'égoïsme. En Dieu, il n'y a pas ça, il n'y a que l'amour. La gloire du Père, c'est que le Fils soit élevé. La gloire du Fils, c'est que le Père soit élevé. Et c'est à ça que nous sommes appelés dans nos relations avec les autres. À cette relation où la charité et l'amour remplacent l'égoïsme, la jalousie et la rivalité. Alors Jacques, justement, va nous donner quelques conseils et quelques pistes. Au contraire, nous dit Jacques, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture. Alors cette sagesse qui vient de Dieu, mais c'est Jésus-Christ. C'est d'abord Jésus-Christ qui est souvent identifié à la sagesse de Dieu. Dans le livre des Proverbes, dans le livre de la sagesse, justement, on assiste à une personnification graduelle de la sagesse qui va déboucher sur la personnification de la sagesse par excellence, qui est l'incarnation, qui est Jésus. Donc la sagesse, donc notre sagesse, notre solution, c'est ce que dit Paul dans Romains 8, après avoir constaté en Romains 7 que on ne fait pas le bien que l'on voudrait faire, mais on fait le mal qu'on ne veut pas faire parce que nous sommes soumis à la loi du péché, et que plus on fait des efforts, plus on voit qu'on n'y arrive pas. Et il dit, heureusement, si vous lisez en substance, il y a la grâce de Jésus-Christ. Eh bien, c'est cette sagesse qui vient de Dieu, celui qui est sorti de Dieu, comme dit Jésus en Saint Jean, qui va nous permettre de sortir de l'ornière qu'est l'égoïsme, qui pourrit notre vie intérieure, jusqu'à notre vie extérieure, notre relation avec les autres, et qui se manifeste dans la vie de ce monde, à l'échelle des sociétés tout entières. Donc, tournons-nous vers Dieu, vers Jésus, dans la prière, parce que ce qui vient de Dieu ne s'obtient que par la prière, évidemment. Alors elle est d'abord droiture. Droiture, c'est le fait d'être plein et entier et de ne pas tergiverser. Finalement, quand on aime, l'amour est un sentiment simple quelque part. C'est je donne. Et je ne me pose pas de question, est-ce que l'autre m'aime ou pas? Je donne, je donne, je donne. Et je vais droit au but. Et nous-mêmes, quand nous, dans notre relation à Dieu, allons droit au but, pas d'idole dans la vie, donnons tout à Dieu. Et à nos frères, donnons leur tout, allons droit au but. Parce que finalement, c'est ce que va dire plus tard dans la prière, enfin dans ce texte, pardon, Saint Jacques, on demande de mauvaises choses dans la prière et on n'est pas exaucé. Mais si on allait droit au but, qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière? La conversion de nos frères et notre propre conversion. C'est ce que dit Jésus, l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint, vous le recevrez. Il n'a pas dit demander une voiture, demander que ça aille mieux dans votre couple, etc. Ce sont des conséquences, que ça aille mieux dans votre couple et des choses comme ça. Ce qui est premier, c'est de demander l'Esprit Saint. Allons droit au but. Soyons vraiment droit devant Dieu. Donnons-nous complètement à Dieu pour recevoir complètement de lui et faisons de même avec nos frères sans arrière-pensée. Et alors, donc, la sagesse qui vient de haut, d'en haut, elle est droiture dans le sens où elle nous forme de l'intérieur pour que toute notre vie soit sans arrière-pensée tournée vers Dieu et les autres. Et alors, la conséquence, eh bien, c'est la paix, la tolérance et la compréhension. Je voudrais attirer votre attention sur le mot tolérance, qui est très mal utilisé maintenant, puisque la tolérance, c'est toutes les religions se valent, l'homosexualité, c'est bien, ne jugeons pas les autres, ne jugeons pas les autres, mais on peut juger les actes. Etc. Et donc la tolérance est devenue cette espèce d'indifférence à tout, qui est l'inverse même de l'amour. Remarquons que Saint Jacques nous dit que la tolérance est la conséquence de la vie de prière. Elle vient d'en haut. Donc ce n'est pas la tolérance du monde. Alors quelle est cette tolérance qui est compréhension? C'est associé à compréhension et à paix. Eh bien, si nous avons le regard tourné vers Dieu, nous savons que il n'y a aucune raison d'être jaloux et d'être plein de rivalité, parce que nous avons d'autres valeurs, nous commençons à avoir les valeurs mêmes de Dieu, qui est réciprocité, amour et don, c'est tout le sens de la Sainte Trinité. Et nous savons que c'est dans le monde invisible que se jouent les choses, nous savons que Dieu nous transforme, et qu'il transforme les autres dans leur cœur, alors il n'y a pas de raison de vouloir s'imposer par la force, ou de juger d'une manière cassante. Nous avons la paix, et alors nous sommes tolérants parce que nous sommes compréhensifs, parce que nous savons que nous-mêmes, quand nous péchons, quand nos frères péchons, ce n'est pas grave, parce que la grâce de Dieu continue à travailler. Ce ne sont que des épiphénomènes, que des incidents de parcours. Voilà pourquoi nous sommes tolérants et compréhensifs. Je pense notamment par rapport à nos frères. Quand ils font, des choses qui ne nous plaisent pas, parce que nous estimons parfois à juste titre qu'elles sont contre la volonté de Dieu, eh bien, ne jugeons pas, prions. La sagesse de Dieu qui vient d'en haut est d'abord droiture et par suite elle est paix, etc. Prions, il n'y a pas de raison de juger, puisque nous savons que ce sont des incidents de parcours et que la victoire est au bout du chemin. Donc cette sagesse, continue Jacques, Donc elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. Justement, cette foi que nous avons, parce qu'il faut bien comprendre que l'amour et la foi vont de pair. Il ne faut pas opposer amour et foi. Si nous avons la foi en Dieu, nous avons l'amour, parce que nous savons que notre foi nous donne du recul par rapport aux réactions que les autres peuvent avoir par rapport à nos actes. Nous avons de l'amour, nous essayons de les amener à Dieu, nous les aimons et ne réagissent pas comme l'on veut. Mais si on a la foi, on sait que c'est une question de temps avant que la grâce de Dieu les transforme de l'intérieur. Alors nous sommes compréhensifs et tolérants. Mais tolérance, donc vous voyez, nous avons quand même le but de les amener à Dieu. Si telle personne a un mauvais comportement, on ne tolère pas le comportement, mais on tolère l'incident de parcours. Vous voyez, la tolérance de Dieu, ce n'est pas la tolérance du monde. Et donc, cette foi, eh bien, elle produit du fruit, elle est féconde, et elle est pleine de miséricorde. Forcément, nous pardonnons plus facilement, puisque nous savons que les réactions de nos frères ou nos propres échecs ne sont que des incidents de parcours sur le long chemin, mais sûr, qu'est la foi, qu'est l'action de Dieu qui va nous transformer, qui va nous amener à la victoire pour nous-mêmes, ce monde et nos frères. Et donc, c'est fécond, bien fait, puisque au lieu d'agir par la force et par nos propres moyens, eh bien, nous laissons la grâce de Dieu agir en nous-mêmes ou en nos frères par notre intercession, notre amour. Forcément, cela produit du fruit, puisque par cette attitude, la grâce de Dieu travaille en nous, travaille en nos frères, travaille en ce monde. Je le rappelle que Dieu sauve l'homme par l'homme, puisque l'amour, par définition, respecte la liberté. Donc, Dieu ne peut sauver l'homme qu'en s'incarnant. C'est tout le sens de l'incarnation. Il fallait qu'un homme sauve un homme. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Et nous sommes le prolongement de cette incarnation, parce que par notre liberté, par notre amour, par notre foi en Dieu, nous permettons à Dieu d'agir dans notre cœur, dans ce monde et dans nos frères. Donc voilà pourquoi notre attitude de prière qui se laisse modeler par la sagesse d'en haut est féconde en bienfaits, etc. Alors évidemment, ce n'est pas partial et pas hypocrite, puisque nous avons appris la droiture de la sagesse d'en haut. Même si nous ne jugeons pas, même si nous sommes tolérants et miséricordieux, ce n'est pas pour nous de l'hypocrisie, parce qu'au fond de nous-mêmes, il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas parce que nous n'osons pas, que nous ne jugeons pas ou que nous ne cassons pas les gens. C'est parce que nous avons la foi en une action supérieure, celle de Dieu. Nous savons qu'il y a un monde qui est plus réel que ce monde, qui est le monde invisible. C'est à ce monde-là, d'ailleurs, que nous sommes appelés à vivre après notre mort, et qui aura gain de cause à la fin des temps. Donc, pas de partialité, pas d'hypocrisie. Donc, pas d'hypocrisie, je viens de dire, pas de partialité, forcément. Dieu aime tout le monde, et quelles que soient les apparences, quel que soit le degré d'éloignement d'une personne, ou quel que soit le degré d'antipathie que nous avons pour cette personne, nous savons que cette personne n'est pas encore gagnée à Dieu. Donc, nous savons que cette personne n'est pas vraiment elle-même avant qu'elle se soit pleinement laissée transformer par la sagesse de Jésus qui vient de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison de faire un tri et de juger sur les apparences. C'était tout le sens du commentaire que j'avais développé dans Jacques chapitre 2. Et écoutons la suite. « C'est dans la paix qu'est semée la justice » qui donne son fruit aux artisans de la paix. Eh bien, c'est la conséquence. La justice, c'est-à-dire l'action de Dieu, pour nous et pour nos frères. Dans la Bible, la justice, c'est être capable de vivre avec Dieu, une relation d'ajustement, faire sa volonté. Eh bien, dans notre vie et dans celle de nos frères, eh bien, si nous voulons la justice, c'est dans la paix, donc dans la prière, qu'il faut la faire, non pas à la force du poignet, comme malheureusement beaucoup de nos politiques. Nos politiques s'imaginent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes, mais qu'ils prient un peu plus et qu'ils agissent moins qu'ils agissent moins sous le coup de l'impulsion, et qu'ils se laissent transformer par la sagesse d'en haut, et vous verrez les résultats. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos dirigeants, d'ailleurs, comme Paul nous le recommande en Romains 13. Mais vous voyez ici. Donc, si c'est dans la paix de Dieu, parce que nous savons que les victoires sont dans l'invisible, que Dieu travaille de l'intérieur, etc., eh bien, cette paix produit la patience, l'amour, la foi, donc qui se manifeste de nouveau par la patience, l'amour vis-à-vis de nos frères, et par l'intercession, et par la prière, eh bien, c'est comme ça que nous semons la justice, que nous rendons possible le fait que les gens s'ouvrent à la grâce de Dieu, que nous-mêmes nous ouvrons à la grâce de Dieu, alors que nous ajustons à Dieu. Et Saint Jacques continue de manière très logique, C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de paix. La victoire est aux artisans de paix. C'est ce que dit Jésus dans les Béatitudes, hein. Heureux les artisans de paix, ils sont appelés fils de Dieu. Pour être vraiment comme Jésus, il faut être quelqu'un de priant. Jésus passait la nuit à prier. Et après, il était plein d'amour pour les gens, en ne jugeant pas sur les apparences, sachant que l'action de Dieu passait certes par la croix, mais qu'elle allait aboutir, pardon, à la résurrection. Nos frères ou nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours aussi saints que nous le voudrions. Nos frères ne sont pas toujours aussi réceptifs que nous le voudrions. Le monde paraît loin de Dieu. Soyons paisibles, prions et aimons, sachant que la grâce de Dieu fait son effet et qu'après la croix, il y a la résurrection. Eh bien, c'est comme ça que nous récolterons la victoire, les fruits. Si nous agissons par nos propres moyens, et à la force du poignet, en ne nous laissant pas guider par la sagesse d'en haut, nous ne récolterons pas les fruits de la victoire. Alors Jacques continue, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement n'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Jacques revient sur ce qu'il disait au début, hein. Si vraiment le monde va si mal, si nous disputons avec nos frères, si en nous-mêmes c'est vraiment tourmenté, y compris dépressif, eh bien c'est parce que Dieu n'a pas été accueilli pleinement dans notre cœur et que nos frères n'ont pas pleinement accueilli Dieu dans leur cœur. C'est là d'abord que se jouent les choses. C'est là d'abord que Satan agit aussi. C'est dans le cœur. C'est dans l'invisible de l'intérieur. Hein? Et finalement, le monde invisible, comme on s'imagine le ciel, c'est comme un grand monde intérieur, où a le droit de citer que les sentiments qui jaillissent de l'intérieur, que sont l'amour, etc. C'est ça, finalement. Alors revenons là maintenant, dans notre monde intérieur à nous, les colères, etc., etc. Le chrétien est celui qui a conscience qu'il doit être l'artisan de l'invisible. D'abord sur son propre cœur, et ensuite sur le cœur de ses frères. Et c'est pour ça que c'est un être de prière, parce que qui seul peut travailler dans l'intérieur? Dieu, par son esprit, par sa grâce qu'est Jésus, l'esprit du Christ, hein, c'est l'Esprit Saint. Comment faire? Eh bien, c'est par la prière que nous donnons ce surcroît d'humanité, d'incarnation à Jésus, qui fait que Dieu peut encore sauver l'homme par l'homme. C'est par la prière que la grâce de Dieu va agir en nous-mêmes, en nos frères, en ce monde. Alors, vous voyez, hein, bien sûr, faisons très attention à nos pensées, parce que dès que nous avons des pensées négatives, il faut les soumettre à Dieu dans la prière, parce qu'autrement, ça dégénère très vite. D'ailleurs, ici, Jacques parle même de guerre et de meurtre. Alors, le meurtre, je crois que c'est ce même Saint-Jacques qui parle de la langue, où il dit que la langue peut tuer. Ça peut être aussi au sens figuré, mais des fois, nous avons des paroles assassines. C'est pas forcément que nous allons prendre un couteau pour tuer nos frères. Nous avons des pensées assassines. Donc, toujours, soyons sur le qui-vive pour remettre dans notre prière tout ce qui peut en nous donner une porte ouverte au mal. Donc vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit, vous faites la guerre. Donc entre parenthèses, hein, je le disais, prions pour nos dirigeants, et parce qu'en priant pour ce monde, nous donnons l'occasion à la grâce de Dieu d'agir. Même si nos dirigeants, malheureusement, ne prient pas explicitement, eh bien par nous, la grâce peut quand même agir dans le cœur des dirigeants et nous limitons les dégâts. Parce que finalement, je me dis toujours que l'enfer, c'est le jour où il n'y aura plus de moines, il n'y aura plus de chrétiens qui prient, là il n'y aura plus de garde-fous. Et le mal donnera libre cours à tout ce qu'il peut. C'est ça l'enfer. Alors, oui, enfin, je reviens sur l'enfer là, qui me travaille aussi là. C'est pareil, quelqu'un en nous-mêmes, même le plus pourri des hommes, il a quand même un peu de la grâce de Dieu, justement entretenu par les prières des autres. Le jour où il décide d'aller en enfer, si par malheur il décide de se couper de Dieu parce qu'il ne veut pas de Dieu, il n'y a même plus ses garde-fous, ni même en lui-même, de l'action de Dieu qui a pu agir grâce à la prière des autres. Et c'est vraiment pour lui l'enfer. Tous ses défauts se multiplient, se démultiplient. Alors revenons au texte, si vous voulez bien. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Ben voilà, hein. C'est ce que je disais. Les chefs d'État ne prient pas. Si nous avons des pensées qui nous minent ou des pensées impures, si nous ne prions pas, nous ne laissons pas la grâce d'en haut agir. Bon, ça, c'est tellement logique. Finalement, c'est ce que nous dit Saint Jacques. Comment agir sur l'invisible, puisque les victoires se gagnent là? Eh bien, c'est en priant. Mais pas n'importe comment. Vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. La prière chrétienne n'est pas une prière distributeur automatique, hein. C'est pour ça qu'il faut se méfier en disant la prière, l'exaucement, mais ça dépend ce qu'on demande. Parce que finalement, si nous sommes conscients que les vraies victoires sont dans le monde invisible, si nous commençons à regarder l'invisible qui n'est autre que Dieu, en nos cœurs et au ciel, si vous préférez, et ce Dieu, c'est la Trinité, c'est cet amour qui se donne, qui se reçoit, qui féconde l'Esprit Saint, on ne peut pas demander n'importe quoi, pas pour satisfaire nos instincts. Voyez? Et moi, je suis toujours surpris, mais on prie pour la guérison de quelqu'un. On prie pour que telle personne trouve un travail, c'est très bien, mais ce n'est pas la prière principale. Jésus a dit, cherchez d'abord la justice du royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Mais on doit prier pour l'Esprit Saint. On doit prier pour la conversion de celui qui ne trouve pas un travail, pour la conversion de celui qui est malade. On doit prier pour notre conversion. La seule prière valable, c'est que la personne se convertisse. Et en se convertissant, il est fort possible qu'elle guérisse, qu'elle trouve un travail, parce que finalement, elle va changer de perspective, etc. Ou par exemple, on prie, ah, ça va mal dans notre couple. Je prie pour qu'avec mon conjoint, ça aille mieux. Mais est-ce que ton conjoint est chrétien? Prie pour sa conversion. Ça ira mieux. Mais attention, il faut prier pour la gloire de Dieu d'abord. Pas, je prie pour sa conversion dans le but que ça aille mieux. Non, mais Jésus nous a dit, demandez l'Esprit Saint. C'est la seule. Finalement, Jésus nous a, à ma connaissance, hein, Jésus nous a donné une seule intention de prière. Enfin, dans notre Père, il donne aussi le pain de ce jour. Mais le pain, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est aussi le pain physique, mais c'est pas que ça. Mais à part le Notre Père, qui est un guide, il y a une autre intention de prière, et c'est la seule, à ma connaissance, qui est donnée de manière explicite, c'est demander l'Esprit Saint. C'est demander Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc demandons la conversion pour nous-mêmes, pour nos frères, pour ce monde. Et le reste viendra par la suite. C'est la seule prière qui est sûre d'être exaucée avec le temps. Et si elle n'est pas exaucée en ce monde, elle sera exaucée dans l'autre, parce que soyez-en sûrs. Si la personne en mourant ne s'est encore pas tournée à Dieu malgré vos prières vont jouer dans la balance pour que quand la personne verra Dieu, eh bien, elle sache dire oui. Ce sera vos prières qui l'auront gagnée à Dieu. Donc, soyons des êtres priants pour la conversion du monde, de nos frères et de nous-mêmes. Voilà. Et donc, pour pouvoir prier comme ça, il faut bien sûr nous-mêmes baigner dans la prière et avoir les yeux tournés vers Dieu et savoir que le vrai monde n'est pas ce monde-là, mais le monde invisible, que la seule chose qui vaille la peine d'être vécue, c'est finalement ce qui se passe dans les cœurs, c'est l'amour, les sentiments, que c'est le ciel. Ça, tout ça va déboucher sur le ciel où tout ce qui compte, ce sont les sentiments. Et ce n'est pas le compte en banque, la voiture, l'apparence. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, viens dans notre cœur, purifie nos pensées, purifie nos sentiments. Oui, donne-nous ton Esprit Saint. Seigneur, donne ton Esprit Saint à nos frères qui sont loin de toi. Donne ton Esprit à ce monde et nous prions d'abord pour nos dirigeants, que l'Esprit les guide. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.